Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Alors, avant de mettre les voiles pour la Méditerranée avec le chef marseillais Gérald Paceda, cap sur la Bretagne, ses embruns, ses paysages bruts et sa cuisine, on va arpenter le littoral et les terres bretonnes avec Emmanuelle Emery, rédactrice en chef adjointe du Figaro. Madame, bonjour Emmanuelle.
Bonjour.
Bonjour.
Madame Figaro, mes respects. Merci, merci d'être avec nous.
Mais c'est un plaisir.
Vous venez nous voir à l'occasion d'un très beau hors-série, Madame Figaro Cuisine. Vous parlez du nouvel apéro. Il y a un focus, un grand dossier sur un chef qu'on aime beaucoup, qui est Glenn Vielle, qui est un chef breton d'origine. On va en parler. Et vous êtes là pour nous parler aussi du renouveau de la gastronomie bretonne, parce qu'un vent nouveau souffle sur les tables bretonnes avec des chefs inspirés, respectueux de leur patrimoine local et patrimonial, avec des produits locaux fantastiques. On peut bien le dire. Hein, ce hors-série Madame Figaro, il est sorti le 9 mai. Alors, c'est vrai que la gastronomie bretonne n'a pas toujours eu bonne presse. C'était pas une région pour le tourisme gastronomique pendant longtemps, faut dire la vérité.
Un peu, je dirais, la faute à la crêpe. On associe la cuisine bretonne à la crêpe.
À la galette, crêpe, à la crêpe, ouais, c'est ça.
Ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas vrai complètement non plus. Ça ne peut pas se limiter à cela. Et je pense que cette mauvaise image a donné envie à la jeune génération bretonne d'aller sur un territoire beaucoup plus vaste et plus gastronomique. Et il y a aussi quelque chose, je pense, de particulier en Bretagne, c'est le rapport à la nature. Parce que ce sont ce qui m'a plu, moi...
La terre et la mer, là,
pour
le coup.
La terre et la mer. Et c'est ce qui m'a plu dans cette idée de sujet, c'est de montrer à quel point ils sont concernés. Tous les chefs aujourd'hui sont concernés par la nature,
l'environnement, l'écologie, les ressources.
Absolument.
Mais oui, ils ont été aussi confrontés à des problèmes d'algues vertes, notamment avec l'élevage intensif et tout ça.
Oui.
Donc, ils savent de quoi ils parlent. Alors, on va parler des nouveaux chefs bretons. Mais avant, il faudrait quand même rendre hommage à une génération qui a fait beaucoup pour la gastronomie bretonne, Ophélie Neyman.
Oui, alors moi, je voudrais revenir d'abord sur des raisons historiques qui font que... On n'a pas vu la Bretagne comme une terre vraiment agricole. C'était une terre de paysans, mais le blé n'y poussait pas. Et comme le sarrasin y poussait et que c'était moins valorisé que le blé, on s'est dit que ce n'est pas une terre, ce qui nous paraît dingue aujourd'hui. Et puis, heureusement, cette jeune génération a fait bouger les lignes. Alors, on en a plein. On le voit dans le dossier, mais on a évidemment Rollinger, hein, Olivier Rollinger et son fils maintenant, Hugo. On a Olivier Bellin, on a d'autres chefs. On a Nolwenn Corre, c'est ça?
Oui. Bien sûr, Nolwenn Corre, ouais. Qui est venu à la table du dimanche. Nous faire une très très belle recette bretonne, oui.
Et puis il y a 6 nouveaux étoilés bretons cette année, j'ai vu ça, 6 restaurants avec autant de chefs à leur tête. Je les cite ou vous le faites ?
Non, allez-y.
Alors, Samuel Sellos, c'est la table d'Anstène.
Oui.
On a Guillaume Pape, l'Embrun. On a Ronan Kervarec, la Saison. On a Lucas Marté du Le Gavrini. On a Nicolas Le Tyran, ex-Aleno, Source à Lorient, c'est une nouvelle table. Et on a Clément Rabhi avec la tête en l'air.
Alors ça, c'est la nouvelle génération, mais il y avait une autre génération
encore avant. Bien connue de chefs qui ont porté haute les couleurs de la Bretagne. Alors on l'a dit, Olivier Rollinger aussi, mais puis des chefs qui ont quitté la Bretagne, hein, Christian Lesquer, Bernard Paco, Alain Passard, figurez-vous, qui est breton d'origine.
Il
en est toujours fier. Vous l'avez dit, Glenn Vielle également. Donc c'est vrai qu'ils ont apporté de leur Bretagne un peu avec eux. Et je pense que beaucoup de ces chefs aujourd'hui revendiquent avec fierté ses origines bretonnes dont il ne parlait pas forcément avant.
Vous avez raison. Et il y a Patrick Geffroy aussi, je sais qu'il nous écoute, qui est un grand chef breton qui a fait beaucoup pour le terroir local aussi.
Oui.
On va faire un petit inventaire de ce terroir local, parce qu'il y a des merveilles, il y a des pépites en Bretagne, vous en parlez.
Oui, il y a en ce moment la fraise de Plougastel. Qui, d'ailleurs, je rebondis sur l'histoire du sarrasin et de la Bretagne. C'est vrai que les crêpes, en fait, c'est parce que le blé traditionnel ne poussait pas en Bretagne qu'elles sont arrivées, parce qu'ils avaient du blé noir, donc le fameux sarrasin, et qui n'a pas de gluten.
Qui n'est pas une céréale, qui est une plante, d'ailleurs, au passage.
On ne pouvait pas faire de pain parce qu'il n'avait pas de gluten. D'où les crêpes, d'où la bouillie, d'où les fards en sac, qui était la base de la cuisine familiale bretonne.
Le terroir breton est riche en produits, le coco de Paimpol.
J'adore le coco de Paimpol. Rien qu'à prononcer, déjà, ça me donne faim. Mais on n'oublie pas les artichauts,
les choux-fleurs,
bien sûr,
la crème,
le beurre,
le sarrasin, évidemment,
le lait ribot,
et puis après
la volaille, la belle rouge de Jean Zé.
Ça, c'est magnifique.
Et puis,
ça,
et puis
très
tous les produits de la mer, parce qu'on parle des terres, mais la Bretagne, elle a quand même quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres de côte. Alors, les coquilles Saint-Jacques, c'est terminé, mais le homard, évidemment, et puis toute une collection de poissons absolument incroyable.
Et puisqu'Olivier ne le dit pas, moi, je vais le dire, il y a le cidre et le chouchène.
Et le chouchène. Et côté vin, il se passe des choses en Bretagne aussi?
Absolument.
Oui, il faut savoir que la Bretagne a été historiquement un grand vignoble qui a disparu avec le phylloxéra. Et puis, il faut reconnaître que le climat breton n'est pas très propice à la culture de la vigne.
Je me demande s'il n'y avait pas 20 000 hectares de vignes au XVIIIe siècle.
À une époque, oui, exactement.
De dingue. Mais oui.
Et aujourd'hui, le réchauffement climatique, il incite les Bretons à replanter de la vigne. Je pense qu'il y a quelques centaines d'hectares aujourd'hui. Il y a des projets qui sont encore en cours. Mais il faut savoir que pendant longtemps, la production de vin a été interdite en Bretagne. Et depuis 2016, l'Europe l'autorise à nouveau. Et donc, ça vient.
Et Emmanuel Emery, côté mer, le poisson est plus valorisé aujourd'hui aussi en Bretagne. On le voit dans de nombreuses assiettes et dans de nombreux restaurants.
Absolument. Et la pêche équitable aussi. Tous ces jeunes chefs sont très attachés à la valorisation de la mer en général et qui passe par protéger la pêche.
Pêche petit bateau, pêche artisanale,
absolument.
Pêche au casier. Hein.
Absolument. Et c'est en Bretagne, au Guilvinec, qu'il y a le premier port français de pêche artisanale. Et vous parliez de la pêche au casier pour les langoustines. Et aussi, il y a tout un travail sur les filets pour éviter le labourage par les chaluts des fonds marins. Donc, ça permet à tous ces chefs d'avoir une pêche locale d'extrêmement bonne qualité.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Cap à l'ouest ce midi à la découverte de la nouvelle cuisine bretonne avec Emmanuelle Emery, rédactrice en chef au Madame Figaro Cuisine, un hors-série spécial qui donne la part belle aux jeunes chefs bretons. On va découvrir le portrait de trois jeunes chefs bretons dans un instant. Racontez-nous ce qu'ils ont de particulier, ces jeunes chefs bretons, aujourd'hui la nouvelle génération, Emmanuelle.
Ils sont particulièrement investis dans la préservation du terroir. Ils sont très éco-responsables. Et ils veulent mettre en avant tous les produits à la fois traditionnels et des nouvelles choses qui arrivent en Bretagne, comme les escargots, par exemple.
Ah bon, on va en parler. Tiens. Voilà. Alors, il y a trois chefs qui se détachent. Hein. Il y a Alexandra Beauvais à Rennes, il y a Anne Bienvenue qui est une chef nomade, et puis Anthony Avoine qui est le chef étoilé à Trébeurden avec une cuisine gastro-locale, justement, comme vous venez de le dire. Il est avec nous au téléphone. Bonjour Anthony.
Bonjour à tous, bonjour Laurent.
Avant de me fâcher avec tous les Bretons, j'ai bien prononcé, c'est Trébeurden ?
Trébeurden, exactement.
Ah,
oui.
Tout va bien. Racontez-nous, tiens, décrivez le paysage, qu'est-ce que vous voyez par votre fenêtre ?
Donc là, actuellement, là, on a le ciel un petit peu couvert. On a un temps magnifique depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, c'est un petit peu couvert.
C'est breton, quoi.
Mais voilà, c'est breton. Ça peut changer dans l'heure.
C'est les quatre saisons en une journée, comme au Pays Basque.
Voilà, exactement, oui. Ouais. Donc, à savoir qu'en fait, le manoir, il est implanté sur les hauteurs de Trébeurden. Ça surplombe l'océan. Donc, on est vraiment face à l'océan. On a les presqu'îles, on a des petits îlots. Enfin voilà. On
est, oui, c'est la côte de Granit Rose. C'est une région magnifique.
Ouais,
oui.
Sur la côte de Granit Rose. Ouais.
On parlait des escargots du coin, tiens, avec Emmanuel Emery à l'instant dans le hors-série du Madame Figaro. Il y a une recette de tartelettes aux escargots du Trégor. Il paraît que vous avez bataillé, hein, Anthony, pour imposer vos escargots à la carte. Racontez-nous.
Oui, bah après voilà, je pense que les escargots, c'est enfin, ça fait partie de notre patrimoine culinaire. Et là, c'est vrai que donc Béatrice, qui est illicicultrice, qui est basée à une vingtaine, trentaine de minutes du manoir, a lancé son exploitation il y a 10 ans, qui a une très belle démarche dans sa façon de faire, dans son éthique. Et c'est vrai qu'il aurait été dommage de ne pas valoriser son travail au travers d'une recette au manoir.
Qu'est-ce qu'ils ont d'exceptionnel, ces escargots, alors ?
Bah, c'est vraiment une chair très ferme et à la fois à la cuisson, enfin à la dégustation, c'est très fondant. On a le côté, c'est des gros gris, donc on a quand même une belle mâche sur le produit. Et puis c'est vraiment l'éthique du produit. Enfin voilà, il y a vraiment une belle démarche dans le travail de Béatrice. C'est un élevage bio. Elle a commencé avec une toute petite exploitation. 10 ans après, ça reste à taille humaine. Elle est toute seule à travailler. Mais voilà, il y a énormément de travail. À savoir que ces escargots, en fait, elle les reçoit, ça fait la taille d'une perle de Japon, en fait, et elle va vraiment de ce début, elle accompagne durant la croissance ce produit jusqu'au travail final en chair pré-cuite.
Et côté mer, vous faites aussi une recette avec des langoustines. Langoustines, lait ribot et jus végétal. Hein. C'est ça, racontez-nous cette recette,
oui, voilà.
Parce qu'elle est,
oui,
elle est
voilà,
dans leur série, fait, ouais. Là, elle fait envie. Ouais.
Oui, voilà, donc pareil, toujours pour valoriser les produits de la Bretagne, langoustine du Guilvinec.
La demoiselle du Guilvinec, c'est elle.
Voilà, la demoiselle du Loctilly.
Un petit peu sucrée.
Oui, elle est douce.
C'est ça, voilà, un léger goût sucré, pareil, avec une juste cuisson de quelques secondes. On a vraiment le côté nacre de la langoustine, vraiment la chair ferme de la langoustine.
Cuisson très courte, hein, vous venez de le dire, c'est vrai que c'est la pleine saison de la langoustine, il faut le dire à nos
oui,
auditeurs.
Tout à fait, ouais.
C'est pas Noël, le moment des plateaux de fruits de mer où on la voit surcuite, c'est maintenant qu'on la trouve. Et combien de temps, quand vous dites quelques secondes?
Nous, on la cuit, moi je la cuis vraiment 5 secondes à l'unilatéral. À la poêle, avec une toute petite noix de beurre.
Ouais, oui, en Bretagne.
Vraiment,
oui.
Ouais, voilà, exactement. Ouais. Ouais, ouais.
Et dites donc, on ne pourrait pas imaginer une rencontre, un mariage entre vos langoustines et les escargots? J'ai l'impression qu'ils auraient un petit truc à se raconter, les deux.
Il faudrait y travailler, pourquoi pas.
Il est osé, il est d'humeur osée aujourd'hui, Olivier.
Exactement. Ouais. Non, mais pourquoi pas. Enfin, voilà, moi, je m'interdis rien en cuisine. Après, je pense que c'est une histoire d'équilibre, de testing, tout ça, mais je m'interdis rien. Donc
challenge.
Pas, que ce serait à tester.
Une idée de recette, tiens, Anthony, pour nos auditeurs, qu'ils pourraient refaire ce week-end avec des produits bretons, mais qu'on trouverait partout. Alors, avec la langoustine ou avec un poisson, par exemple.
Oui, bah pourquoi pas réaliser un petit beurre aux algues, par exemple. Les algues, maintenant, ça se trouve beaucoup dans les épiceries bio, les magasins bio, en fraîche, enfin en saumure du moins. Et on peut réaliser un petit beurre d'algues, par exemple, avec ça, à partir sur 15 grammes de dus, 15 grammes de laitue de mer, 15 grammes d'aonori. Ouais, voilà, ouais, un petit mélange d'algues. Mixer ça avec un beurre pommade, et puis après, ensuite... Pour comment saisir son poisson, ou bien parfumer des coquillages, ou bien tout simplement sur une tartine de...
Ah oui, sur des palourdes ou des coques, ça ne doit pas être mal, ça, effectivement. Ça peut remplacer la persillade.
Voilà.
Hein,
ouais.
C'est une
voilà,
persillade iodée.
Voilà, exactement. On a vraiment le côté iodé qui ressort. Ouais.
Et qu'est-ce qu'on boit, tiens, avec ça? Je vous pose la question, Ophélie Lehmann. Hein,
il faudrait que je le goûte pour pouvoir
c'est
dire.
Ça. Voilà, mais...
c'est vrai. Ouais.
Non, mais il y a tellement de bons vins blancs, un peu iodés, un peu marins, un peu salins.
De genre... la région nantaise.
Absolument. On oublie à quel point il y a de grands muscadets. Hein. C'est pas juste le petit muscadet de comptoir. Vous allez sur Clisson, Valette, qui sont des crus du muscadet. Et là, vous avez des élevages à 48 mois sur lit. Et là, c'est grandiose.
Et redécouvrons aussi des poissons plats accessibles comme la barbue, hein, je pense à ça par exemple, Anthony, qui est un poisson avec une très belle chair. Je pense aussi à Nolwenn Kaur, qui est une chef bretonne qui est venue nous voir il n'y a pas longtemps à la table du dimanche et qui nous a fait une barbue meunière comme ça. J'ai encore le goût en bouche. Hein. On est d'accord
qu'il faut... J'étais pas là.
Vous n'êtes pas là le dimanche, vous êtes là le samedi. Vous êtes d'accord, Anthony, qu'il faut revaloriser ces poissons, hein?
Exactement, oui. La barbue, c'est un poisson exceptionnel. Hein. Sa chair ressemble... à celle du ce que l'on connaît, le turbo, enfin voilà, c'est une chair vraiment exceptionnelle.
Et beaucoup moins cher.
Sur la côte.
Et ben on va en parler aussi avec Gérald de Passeda, le chef marseillais, qui nous rejoint dans un instant. Merci Anthony Avoine d'avoir été avec nous au téléphone. Au manoir de Lannekerelec. Le manoir de Lannekerelec, c'est à Trédordain dans les Côtes d'Armor. Bonne journée en Bretagne et bon week-end. Et on vous retrouve dans ce hors-série en kiosque depuis le 9 mai. Le Madame Figaro cuisine avec 100 recettes qui annoncent l'été. Merci Emmanuel Emery.
Merci beaucoup.
D'être venu nous en parler et de l'avoir apporté. Il est tout chaud.